Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti. À Rodeville-Mans. Vous voulez que l'on passe un moment chez moi? Gilbert hausse ses épaules et lui dit: oui, je veux bien. Et Harold le mène vers sa voiture. Il le fait entrer dedans et entre lui-même. Puis, il met la voiture en route. Gilbert demande: c'est loin? Non, boulevard Haussmann. Tiens, comme Judith, oui, mais pas dans le même immeuble. Boulevard Haussmann. Il a garé sa voiture devant un immeuble de 5 étages, tout de verre. Voilà, nous y sommes. Sorte de voiture. Et Aaron l'amène dans son allée. Ils y rentrent. Allée, marbre et glace, lustre métal, forme bizarre, l'allée est très grande. Il l'amène à l'ascenseur. Entre dans l'ascenseur. C'est au quatrième étage. Ils arrivent au quatrième étage, sortent de l'ascenseur. Sur le couloir, ils vont vers la porte de droite. Bien. Ils ouvrent. Ils entrent. Ferment la porte. C'est un 4 pièces meublé, moderne, vert et boiserie noire. tableau moderne, mur gris métal. Julien lui dit, c'est bien chez toi. Oui, assez. Allons au salon. Et il le mène au salon. Grande pièce carrée, avec des fauteuils, canapés, table basse, barre vitrée, etc., etc. Assieds-toi. Il lui montre un fauteuil. Il s'y assoit. Harold s'assoit en face de lui. Harold lui demande, tu te sens bien? Oui, très bien. Merci. Parce que si tu veux pour te détendre, c'est très très important, tu sais, se détendre. Je peux te faire un massage, si tu veux. Gilbert lui dit, j'ai pas tellement l'habitude de ça. Harold sourit et lui dit, tu vas voir, tu vas te sentir mieux. Il se lève et va vers lui. Il lui dit, viens, lève-toi. Gilbert se lève. Enlève ta veste. Gilbert enlève sa veste qu'il met sur le fauteuil. Viens, il le suit. Allonge-toi. Il le fait allonger sur le canapé. Harold lui met un coussin sous la tête. Et lui dit, détends-toi maintenant. Détends-toi. Repose-toi, ne pense à rien. Harold lui caresse les cheveux. Puis petit à petit, il descend. Ça va mieux, ça va te faire du bien, hein? Oui, je me sens bien. Harold continue, puis il caresse les tempes, le visage. Gilbert se laisse aller. Il est pris par une torpeur. Il se sent aller. Harold lui défait sa cravate et le haut de la chemise. Il passe ses mains à travers la chemise. Dans la peau douce et délicate de Gilbert. Gilbert se laisse aller, il est comme pris, envoûté par ses mains si douces. De bruit. La main continue à caresser et à descendre plus bas. Elle arrive à la ceinture. Harold défait la ceinture. Le déboutonne. Caresse jusqu'au bas de la taille. Il sent le haut du slip. C'est de plus en plus doux. Puis, il s'arrête. Gilbert ne bouge pas. Harold me remet en place la chemise, le pantalon. Il range ses cheveux. S'assoit en face de lui. Il lui dit, voilà, ça suffit. Qu'est-ce que tu en penses ? Gilbert lui dit, pas désagréable. Harold lui dit, la prochaine fois, quand tu voudras. Je veux bien. Harold sourit. Gilbert sourit. Il regarde sa montre, faut que je parte, je te raccompagne. Et ils sortent de l'appartement. Harold est dans son bureau, le téléphone retentit. Il décroche. Je suis Mademoiselle Land, directrice des relations humaines. J'aimerais un entretien avec vous. Pouvez-vous passer ce matin? Est-ce urgent? Oui, monsieur. Bien. À 10h, et il raccroche. Et à 10h, il va sonner à la porte de Mademoiselle Land.
Il appuie sur le bouton, le voyant vert s'allume. Il entre. Elle lui dit, venez vous asseoir, monsieur Grimaud. et il va s'asseoir face au bureau.
Je suis très déçue et inquiète. Je me demande si vous ne jouez pas double jeu. Qu'est-ce que cette histoire ? Il paraît que vous êtes l'amant de Madame Franblanc. L'amant de la femme qui a porté dans son sein la personne. C'est de l'inceste ce que vous avez fait là, mon ami. Vous devez protection et respect à cette personne qui est comme, pour les chrétiens, la Vierge Marie. Alors, Harold lui dit, je vous assure que c'est faux. Madame Franblanc m'a demandé, c'est de l'accompagner à une exposition de tableaux. Son mari le savait. Et nous n'avons fait que cela. Mais de vieilles biques nous ont vus. Alors, jurez-moi que vous n'avez jamais cherché à séduire Madame Franblanc. Je vous le jure. Elle lui dit, je veux bien vous croire. Et son fils, notre fils, qu'est-ce que vous faites avec lui ? Rien, je vous assure. Alors, pourquoi êtes-vous toujours ensemble ? C'est le hasard. Et puis, que deux ou trois fois, sans plus, elle lui dit, vous touchez un cheveu de cet enfant. Si vous faites des choses contraires, si vous avez des attouchements, etc., c'est le plus grand crime que vous puissiez faire. Tout est sacré. L'on ne touche pas, l'on ne prend pas. Personne ne doit avoir la moindre parcelle de lui. S'il lui arrive quelque chose, que vous y êtes pour quelque chose, ce sera la mort complète, même pas l'ADN, de la poussière. De la poussière. Je ne veux plus que vous voyiez cet enfant ni sa mère. Vous avez compris ? Vous devez avoir suffisamment de travail comme ça. Et si vous n'en avez pas assez, je vous en peux vous en donner l'autre. Vous avez compris ? Oui, madame. Allez. Le rapport ira chez lui. Harold se lève et sort du bureau. Démolit et se reconstruit. L'on continue à déplacer les habitants des immeubles en démolition et à les évacuer. Ce sont pour la plupart des gens démunis. Ils les évacuent hors de Paris dans des zones préparé pour cet effet. Étaient préparés des petits immeubles en bois, vite fait, en plein champ. zone est assez éloignée des moyens de transport pour éviter qu'ils reviennent à Paris. Elle a demandé aussi au magasin Fourcard de faire des supérettes pour ses logements. Comme ces gens n'ont pas d'argent, la supérette ne vendra qu'à très bas prix que des produits spécialement faits pour ces gens, pour ce genre de consommateurs. Produits Pontois Plus. Le publicite a failli mettre les produits Pontois, le produit les plus pauvres.
Nous obtiendrons l'exclusion.
Mais n'a pas osé. C'est vrai quoi, ils sont pauvres, mais pas aussi cons qu'on le croit. Chaque fois que Maurice voit les camions, les cars et pousser les gens hors de Paris, cela lui fait mal. Un après-midi, il dit tout ça en déjeunant au restaurant avec Harold.
Je me sens coupable. J'ai l'impression de les mener dans des camps. Pourquoi ? Pourtant, ils n'ont rien fait. C'est pas de leur faute s'ils sont pauvres.
Harold lui dit : Vous n'avez pas à vous sentir coupable. Vous n'y êtes pour rien si ces gens sont inadaptés à la nouvelle vie que nous leur préparons. Même sans vous, ils seraient perdus. Pour eux, de toute façon, c'est la fin. Ils sont vieux jeux, ont des idées rétrogrades, telles que religieuses, 68ardes, écolos, gauchistes. Ce sont tous ces gens qui ont mis la France dans l'état où elle est. Ils ont détruit l'État. Ils ont le cerveau primaire. Que voulez-vous faire de ces gens ? Leur donner du travail ? Un mois après, ils font grève. Nous, c'est l'avenir. Maurice lui dit :
crois l'avenir ? Harold lui dit, immortalité. Maurice lui dit, ridicule. Non, il y a 20 ans, ils étaient déjà très en avance là-dessus. Il suffit, c'est de mettre le cerveau dans le corps artificiel, dans un corps artificiel. Comme cela, plus de risque de dégradation. Et si le corps artificiel ne marche plus, on met le cerveau dans un autre, etc. Il n'y aura plus de problème de corps. Le cerveau sera libéré. C'est comme ça qu'on arrivera à l'immortalité. Maurice lui dit, oui, mais le cerveau, lui aussi, est mortel. Il se dégrade. Harold lui dit, ils trouveront bien quelque chose, comme d'imprimer, de stocker sur un matériel toutes les données du cerveau, des espèces de disquettes. Des disquettes, comme par exemple des disquettes en verre, pour qu'elles puissent résister. Ce qui est vraiment la personne, ce qui est vraiment le cerveau, ce qu'il pense, ressent, aime, etc., etc. Et après, en faire un corps, s'il le faut. On pourrait aussi, c'est multiplier les disquettes de ce cerveau pour pouvoir faire plusieurs clones de cerveau qui sera exactement semblable et fera et pensera de la même façon. On traite le cerveau d'une personne dans un clone qui prendra sa place. Un espion pourra prendre le cerveau d'un autre. Il y aura des villes de cerveau. La chirurgie esthétique se fera en 5 minutes en changeant de robot. Les robots ressembleront aux humains à 100%, que ce soit du point de vue visuel comme touché. Maurice lui dit, assez, j'aime mieux mes SDF. Harold lui dit, vous dites ça parce que vous n'y êtes pas habitué, mais vous verrez. Et puis, vous ne pouvez pas être contre. Pourquoi ? Parce que vous êtes le pilier de cette nouvelle vie qui se prépare. Ça, on peut dire que des piliers j'en plante en ce moment. Les jours passent. Dans la vieille maison, au fond de la cour, au premier étage, dans le bureau du vieil homme, il est assis à son bureau. Il y a en face de lui la femme en noir. Le vieil homme lui dit,
Péchi, il serait sage de savoir ce qu'a trouvé Pierre de Saint-Auban sur nous.
Elle lui dit, il n'a pas travaillé sur nous, mais sur le projet Pontois du dossier PNDN43, qui n'a rien à voir avec nous. Ensuite, de toute façon, nous n'étions pas encore implantés, l'homme lui dit.
Mais en faisant cette enquête, il a pu avoir des informations sur nous. On ne sait jamais. Il faut retrouver ce dossier. Il avait fait de la radio.
Mais où ? Il lui dit.
Je ne sais pas. Il avait de la famille.
Oui, un frère et un père. Le père est mort, le frère, nous ne savons pas.
C'est peut-être eux qui ont dû hériter. Je suppose qu'il faut chercher chez eux.
Elle lui dit, bien, mais ce sont des vieux documents. Ils ont peut-être été déjà brûlés.
Il le faut. On peut nous faire chanter à cause de ça.
Une voiture s'est arrêtée devant l'immeuble de Radio Métropole qui se trouve rue Juliette Rétamier, près du cours Lafayette, dans le 6e arrondissement. Une sorte de voiture, une femme grande, mince, blonde, habillée d'un tailleur beige. Elle va vers la radio. Et entre. Elle est entrée dans la radio. Une hôtesse en tailleur bleu lui demande : Vous désirez, mademoiselle ? La femme lui dit : J'ai rendez-vous avec mademoiselle Sylvie à Loin. L'hôtesse lui dit : Allez à l'accueil, madame. L'on vous dira où aller. Et elle va à l'accueil. À l'accueil se trouve une jeune femme blonde habillée du même tailleur bleu. La femme dit : Bonjour mademoiselle.
Bonjour.
Bonjour madame. Vous désirez ?
J'ai rendez-vous avec mademoiselle Sylvie à Loin.
Vous êtes ?
Béatrice Lacombe.
Elle tape son ordinateur. Elle lui dit :
Mademoiselle Sylvie à Loin va bientôt finir son émission. Pouvez-vous vous asseoir ? Elle passe par là.
Et vous asseoir là, dans un fauteuil. Elle va s'asseoir dans un fauteuil. Et attend. Une porte s'est ouverte et apparaît une femme intérieure bordeaux, carton noir, blonde, grande, sympathique dans les 27 ans. L'hôtesse lui dit :
Madame, Béatrice Lacombe vous attend ici.
Elle va vers Béatrice. Lui dit :
Ça fait longtemps que vous m'attendez ?
Non, je viens d'arriver.
Sylvie lui dit : J'avais enregistré une émission. Je crois que nous ferions mieux c'est de sortir. Ça aurait mieux pour parler. D'aller ailleurs, parce qu'il y a beaucoup d'émissions et puis il y a beaucoup de va-et-vient. Venez, on va au café qui est en face de la radio. Et Béatrice la suit.
elle traverse la chaussée et entre dans un grand café brasserie. C'est le café que les gens de la radio vont avec leurs invités. Elles réussissent à se trouver une place tranquille. Le serveur vient vers elle. Béatrice demande, vous désirez boire quelque chose? Sylvie lui dit, c'est moi qui paye, pour nous deux, j'y tiens. Merci. Béatrice lui dit, choisissez. Sylvie lui dit, un jus de pomme. Béatrice lui dit, deux jus de pomme. Le barman se retire. Sylvie lui dit, vous voulez faire un article sur nous, je crois. Béatrice lui dit, oui, sur la radio. Cela fait combien de temps que vous faites cette émission? Sylvie lui répond, Forum Info, eh bien, voyons, après la disparition de la célèbre émission Débat qu'avait créé Pierre de Saint-Auban et qui avait été repris par Pascal, la radio s'était retrouvée sans émission phare et sans débat. Alors on m'a demandé de prendre la suite. Le serveur arrive et leur apporte leur boisson. Donne sa carte pour payer la consommation. Il la met sur l'écran et la lui rend. Béatrice lui dit, la radio ferme à quelle heure? Oh, elle émet 24h sur 24, mais elle ferme ses studios à 24h et les rouvre à 7h. Béatrice lui demande, les sujets de votre émission sont-ils aussi chauds que ceux de Pierre de Saint-Auban? Je crois, oui, mais cela dépend pas de l'actualité. En ce moment, nous vivons, disons, une instabilité stable. Ce qui veut dire que pas d'infos fortes. Béatrice demande, et que sont devenues les émissions de Pierre de Saint-Auban? Nous avons des archives, et je crois que malheureusement, ces émissions enregistrées ont dû être effacées ou perdues. Mais il doit rester les dossiers écrits doivent rester dans les archives. Qu'il reste le dossier de la dernière émission qu'il préparait, ça je ne peux pas le dire. Béatrice lui dit, saviez-vous du sujet qu'il était en train de préparer? Et elle continue à parler. Chris lui a dit qu'elle préparait un article pour son magazine hebdomadaire Ambition Féminine, le magazine de la femme moderne.
Deux jours plus tard, une voiture s'est arrêtée devant l'entrée de la radio. Sort de voiture, un homme, grand, mince, costume noir. Il va vers la porte de la radio. Prend une carte qu'il met sur l'écran de la porte pour l'ouvrir. Cette carte est la copie de la carte de la journaliste qu'elle a donnée au serveur pour le payer au café. Le serveur, avec son écran ordinateur, s'est payé, mais en plus, il a gardé copie des informations qu'a la carte pour pouvoir en faire une. Il lui a suffi, c'est de poser sur l'écran une carte à puce vierge, appuyer sur copie numéro 5, et la chose a été faite. Maintenant, avec ces cartes, il peut tout faire ce que pouvait faire la propriétaire de la vraie carte. La porte s'est ouverte. Parce que tout animateur journaliste peut entrer à la radio quand ça lui chante. Pour préparer une émission, il peut avoir aussi besoin de notre matériel ou un devoir, un dossier, etc. La radio est vide dans le noir. Il n'éclaire pas. Je sers d'une petite lampe de poche pour éclairer et se dirige vers l'ascenseur. Appuie sur le bouton. Il entre dans l'ascenseur. Appuie sur le bouton pour aller au sous-sol. Arrivez au sous-sol, il sort de l'ascenseur. C'est un long couloir avec des portes en métal. Il y en a des deux côtés. Il y a du matériel électrique. Des papiers de comptabilité et des rayonnages. Il met la carte sur une porte où c'est marqué archive. La porte s'ouvre. Il est clair. Une grande pièce avec des casiers en métal, plein de dossiers, chemises, cartons, de papier et de bandes magnétiques. C'est classé par anneau, par année. Il va regarder les années. Il regarde d'abord des dossiers vieux de 30 ans, 25 ans. Il trouve enfin un carton marqué sur une feuille rouge, Pierre de Saint-Auban. Prend le carton, le met à terre. Dedans, il y a des papiers, des cahiers, des chemises. Il commence à chercher.
Deux jours plus tard, il a tout regardé, n'a rien trouvé. Comme le temps presse, il se dépêche de regarder dans les bandes magnétiques. Non, il ne trouve rien. Alors il remet tout en place et sort de la pièce. La radio, il fait encore nuit, la rue est déserte. Vite, il entre dans sa voiture. Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, l'élu, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Musique originale de l'élu, Lionel Morzetti.